L'invité de la matinale de Radio Classique est dans le studio avec nous. Bonjour Maurice de Serra.
Bonjour.
Vous êtes académicien, vous êtes historien et vous êtes diplomate et vous publiez ce livre il y a quelques jours à peine, Munich 1938, la paix impossible aux éditions Perrin. Bienvenue sur Radio Classique. Alors tout le monde a en tête plus ou moins précisément ce que fut Munich 1938, cette conférence qui aboutit à la signature des accords de Munich avec de fait l'annexion par l'Allemagne d'Hitler d'une partie de la Tchécoslovaquie. On a en tête qu'il s'agit d'une sorte de défaite morale et des démocraties face à un nazisme déjà vigoureux. Pourquoi avoir voulu revenir en détail sur cet épisode prélude à la Seconde Guerre mondiale ?
Eh bien, tout simplement parce que c'est une plaque tournante de l'avant-guerre, dirais-je, non pas de la période de l'entre-deux-guerres, parce que ça annonce déjà ce qui va venir avec la terrible année 39 et donc la guerre. Et à côté de cela, parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre encore de points qu'il fallait peut-être mieux éclaircir, essayer, c'est toujours la volonté d'un historien, puis il faut voir s'il y arrive, de nuancer certains faits et surtout d'ajouter certains éléments de réflexion qui peut-être peuvent être utiles également à notre débat d'aujourd'hui.
Votre livre commence par quatre portraits très marquants des quatre protagonistes que furent l'anglais fuligineux, Neville Chamberlain, premier ministre britannique, le taureau gaulois, toujours des guillemets hein, au début de ces phrases, Édouard Daladier, président du Conseil, l'italien bronzé, ça c'est pour Benito Mussolini, et puis Adolf Hitler, dont vous titrez le portrait, la vengeance du caporal de Bohème. À quel point, Maurizio Serra, ce qui s'est joué à Munich en 38 est aussi un jeu de personnalité?
Ah oui, non, les personnalités comptent toujours dans l'histoire. L'histoire se fait sur les pas des femmes et des hommes. Donc il est certain qu'en plus, ces quatre personnages, et n'oublions pas dans la coulisse qu'il y avait quand même le Tchèque Beneš et le soviétique, le menhir soviétique Staline,
qui n'était pas à la conférence.
Ah non, qui n'était pas ni l'un ni l'autre à la conférence, ont compté énormément dans les enjeux.
Et quel rôle a joué Mussolini, par exemple, à ce moment-là, lui qu'on a parfois tendance à résumer à un petit Hitler, en quelque sorte?
Ah non, pas du tout. À ce moment-là, bon, bien sûr, il y a eu déjà des ententes entre eux, notamment sur le terrain de la guerre civile d'Espagne. Mais il n'est pas du tout l'allié de Hitler. Et d'ailleurs, il ne veut surtout pas d'un défaire. Le sort de la Tchécoslovaquie et des Sudètes ne l'indiffère complètement. Mais il ne veut pas, après l'Anschluss de quelques mois plus tôt, d'un déferlement allemand en Europe centrale jusque vers la frontière du Brenner italienne.
On se souvient aussi que l'entre-deux-guerres, entre 18 plutôt et 38-39, c'était l'époque d'un certain pacifisme dans une partie de la société et de la classe politique. Quel rôle a joué le pacifisme?
Alors justement, c'est du côté des modes démocratie nous devons nous situer, parce qu'oublions les deux dictatures, l'allemande et l'italienne. Du côté des démocraties, on a beaucoup évidemment critiqué pour leur démission Chamberlain et Daladier, mais Chamberlain et Daladier étaient en ce moment porteurs d'une très grande majorité contre la guerre, avec encore la mémoire de tout ce qui s'était passé d'atroce en 14-18. Et donc, du point de vue démocratique, quand on dit, par exemple, on fait de l'Uchronie, que s'il y avait eu de Gaulle et Churchill à la place de Daladier et de Chamberlain, ils auraient fait une toute autre impression. Mais ça n'a aucun sens, parce que le choix des démocraties était d'avoir ce genre de leader.
Politiquement, il n'en aurait pas eu le mandat, en fait, c'est ça?
Non, bien sûr que non. Ouais.
Et d'ailleurs, les sondages d'opinion commençaient tout juste à exister et allaient dans le sens des accords.
Aller dans le sens des accords, Chamberlain, à son retour, oui, et c'est encore plus net en Angleterre, à son retour, Chamberlain est ovationné et il est, dans tous les sondages, le plus populaire des premiers ministres britanniques depuis le duc de Wellington, le vainqueur de Napoléon.
L'histoire a sévèrement jugé les démocraties présentes à Munich en 38, mais vous sous-titrez votre livre « La paix impossible ». Autrement dit, et ça vient aussi de ce que vous venez de dire, il n'y avait pas tellement d'autres conclusions possibles pour Munich?
Pour Munich, non. En fait, au moment de la conférence qui se tient, parce que Hitler, avec un bluff qu'il faut définir magistral du point de vue strictement diplomatique, je ne parle pas évidemment du point de vue moral, dit qu'il va envahir le 1er octobre à 8h du matin la Tchécoslovaquie, donc la conférence se réunit pour entériner une décision qui est déjà prise. Oui. D'ailleurs, on parle des accords, c'est un accord d'une page et demie, bâclé, très mal écrit, avec des annexes.
Vous mais le reproduisez dans le livre, hein, je le précise.
Oui, et les annexes sont plus importants que l'accord, parce que les annexes prévoient notamment qu'il y ait une commission internationale qui devrait établir notamment les nouvelles frontières de la Tchécoslovaquie. Mmh. Et elle sera noyautée.
Est-ce que les démocraties se sont fait avoir à Munich en 1938, comme on l'a souvent laissé penser? Vous parlez de bluff.
Ben, elles se sont pas fait avoir dans la mesure où elles avaient déjà décidé de céder.
Oui.
Donc, Daladier et Chamberlain arrivent, affaiblis également par un autre fait, qu'il n'y a pas une entente forte entre les deux démocraties. Alors, la faiblesse de l'un...
Ni avec les États-Unis d'ailleurs, hein, qui sont absents totalement
les États-Unis, oui, ça c'est autre chose. Quoique les États-Unis avaient eu un rôle important dans la création de la Tchécoslovaquie.
Oui.
Qui, en 18...
Et il s'agissait de gagner du temps, en quelque sorte, en espérant quoi après
non, la thèse de gagner du temps ne tient pas debout. Oui, évidemment, après Munich, surtout du côté français, Daladier, qui est assez pessimiste, et c'est d'ailleurs le seul qui a une certaine souffrance humaine de cette démission de la France, et son ministre des Finances, qui est à ce moment-là Reynaud, commence à moderniser l'appareil militaire, mais c'est tard.
Alors Maurice de Serra, vous citez dans le livre cette phrase attribuée à Churchill, « L'Angleterre avait le choix entre le déshonneur et la guerre, elle a choisi le déshonneur et elle aura la guerre ». Cette phrase résume ce que peut être la position de facilité d'une démocratie fuyant le conflit à court terme, à Munich 38 comme ailleurs.
Alors tout d'abord, la phrase n'a jamais été prononcée.
Voilà, ça, c'est une des légendes de
c'est
Churchill.
C'est une des légendes churchilliennes. Churchill a été extrêmement habile.
Il a beaucoup parlé. Hein.
Ah oui, il a été extrêmement habile à se positionner après comme le grand adversaire de l'accord et le grand adversaire de la politique de l'apaisement. Bon, c'est une attitude de politicien. Cette phrase est pas la même, et dans une lettre, il ne l'a jamais prononcée au Parlement. Mais il a quand même prononcé un très grand discours en disant « la Tchécoslovaquie va disparaître, endeuillée, et ce sera le deuil de la démocratie ». Il avait parfaitement raison.
Qu'est-ce qui, très précisément, dans la situation actuelle, peut nous rapprocher de Munich 1938? La question est évidente, puisque vous publiez ce livre en avril 2024, 2 ans après le début de la guerre en Ukraine, et pourtant, vous nous dites que ce livre n'est pas lié à la guerre en Ukraine.
Non, pas du tout, je l'avais commencé bien plus tôt.
Il n'en est pas fait référence dans le livre.
Si, peut-être, dans la conclusion, je dis un mot ou deux, mais toujours avec beaucoup de prudence, parce que vous savez, pour un historien, les comparaisons sont toujours difficiles. Mais il y a en même temps une règle dans l'histoire qui est, je crois, importante à suivre, et qui est qu'on peut toujours apprendre quelque chose de l'histoire.
Oui.
Et notamment, on peut apprendre sur le fait qu'à tout moment et dans toute crise, la démission et la lâcheté ne vont pas au profit des valeurs morales d'une démocratie.
Mmh. Les dirigeants politiques d'aujourd'hui ont-ils la mémoire de Munich 1938 qui fut longtemps un repoussoir et l'exemple même de ce que, promis juré, on ne laisserait plus jamais faire?
Ah, je ne sais pas, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mais enfin, j'espère quand même que ça puisse signifier quelque chose dans leur vision des enjeux actuels.
Et que pensez-vous de la comparaison qui, pour le coup, a été faite par celle qui est aujourd'hui tête de liste macroniste pour les élections européennes, Valérie Hayer, qui disait « Hier, Daladier et Chamberlain, aujourd'hui, Le Pen et Orban, les mêmes mots, les mêmes arguments, les mêmes débats, nous sommes à Munich en 1938. » C'est une punchline politique, Maurizio Serra. Est-ce que ça vaut quelque chose?
Écoutez, ce n'est pas un historien italien de commenter les propos d'une personnalité politique française. Ce que je peux dire, et je le répète, c'est que Daladier et Chamberlain étaient alors suivis par une très grande majorité de leurs opinions publiques. Donc nous devons tenir compte du fait que leurs responsabilités sont au moins partagées avec tous ceux qui les avaient amenés au pouvoir.
Mmh. Dans un autre genre, Donald Trump répète qu'il a un plan pour arrêter la guerre en Ukraine d'un seul coup, en l'occurrence en laissant la Russie, la Crimée et le Donbass, et en obtenant de la Russie qu'elle se retire des régions de Zaporijjia et de Kherson. Là aussi, on peut forcément, mais vous le dites, attention, au côté, l'histoire repasse les places. Évidemment, une tarte à la crème.
Oui, en tout cas, pour en revenir à la Tchécoslovaquie, un point qui est important sur la crise de Munich et qui peut, si vous voulez, amener à des comparaisons avec aujourd'hui, c'est que une Tchécoslovaquie, même amputée des Sudètes et même diminuée, pouvait encore être viable Si on n'avait pas permis dans les 6 mois successifs, qui sont vraiment la responsabilité plus forte, d'arriver vers le protectorat allemand. Mmh. Mais le sort de la Tchécoslovaquie n'était pas nécessairement liquidé et fixé à Munich.
Et je le dis d'ailleurs, le livre est fait de façon très facile à lire, puisqu'il y a avant Munich, Munich, après Munich, et puis ces 4 portraits que j'ai listés tout à l'heure. Est-ce qu'on attend, et puis il y a des cartes aussi au milieu, notamment justement de la Tchécoslovaquie. On a tendance naturellement à penser, Maurizio Cera, que la guerre est loin et qu'elle ne peut plus nous frapper tant qu'il n'y a pas des bruits de bottes vraiment sur notre sol.
Vous savez, c'est une vision parfois un peu, comment dirais-je, ou optimiste ou naïve. La guerre fait partie, hélas, de la panoplie des comportements géostratégiques. Donc il faut toujours tenir compte de l'éventualité. Et à la rigueur, il faut essayer, même grâce aux technologies, d'en humaniser les procédures, de les cibler. Enfin, nous entrons dans un vaste débat.
Hein. Oui. Est-ce qu'on, enfin, on reparle de plus en plus de guerres de haute intensité venues de la Russie, et qui toucheraient cette fois non plus seulement l'Ukraine, mais l'Union européenne. Est-ce que on se dit qu'un seul pays comme la Russie ne peut pas multiplier les fronts, et si on se dit ça, on a tort au regard de l'histoire?
Non, pas nécessairement, parce que les fronts peuvent être multipliés. Napoléon l'avait fait, Hitler l'a fait, d'autres l'ont fait. Donc, Alexandre, non, ce n'est pas la multiplication des fronts, je pense, qui réduit la nocivité de certains facteurs. C'est plutôt le fait d'avoir des négociations insuffisantes. Et, comme disait le prince des diplomates, le prince de Talleyrand, il faut négocier toujours, mais négocier toujours en ayant une ligne de fermeté.
Et justement, vous qui êtes historien et diplomate, de vos recherches et de votre expérience, est-ce que la nature, la forme des discussions diplomatiques ont tant changé que cela en 86 ans par
rapport? Non, je ne pense pas. Je pense que le facteur humain, Chilavieczeski factor, Paruski, est encore fondamental dans les enjeux et dans les négociations.
Donc il faut faire preuve toujours de psychologie en 2024 comme en 38.
Oui, bien sûr.
Maurizio Cera, merci beaucoup. Maurizio Cera de l'Académie française qui publie ce livre Munich 1938, La paix impossible aux éditions Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Il est 8h27.
Merci.
L'essentiel de l'actualité, puis François-Olivier Gisbert.